Radio de la Paix, la grande interview.
Ben Diakité.
Bonjour à tous, bienvenue à l'espace La Grande Interview. Dans le cadre de cette émission, La Grande Interview, nous recevons aujourd'hui le président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Monsieur Joseph Hamon. Monsieur Joseph Hamon est en tournée d'explications sur les rôles et missions de l'architecte en Côte d'Ivoire. Également, le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire sensibilise les populations sur la nécessité de respecter les règles de construction des maisons dans le district d'Abidjan. En effet, plusieurs maisons et immeubles d'habitation dans le district d'Abidjan se sont écroulés ces derniers temps. Au nombre des maisons écroulées, un immeuble à la Palmeraie le 4 juin dernier, on dénombre 18 victimes dont un mort. Un autre immeuble à Adjamé s'est effondré le vendredi dernier. Également toujours à la Palmeraie le 14 juin de l'an dernier, malheureusement, un autre immeuble s'est effondré où on a dénombré 9 morts. C'est pour parler donc du rôle de l'architecte, de l'importance de cet acteur de la construction que nous recevons donc le président de l'Ordre des architectes pour nous dire quelles sont les dispositions à observer, quelles sont les règles à regarder pour éviter que pareil drame ne se produise. La grande interview mise en onde, Camara à Mina F1, à ce micro Ben Diakité. Merci de suivre le programme de Radio de la Paix.
Radio de la Paix, se parler, s'écouter, se comprendre.
Monsieur le Président Joseph Hamon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir effectué le déplacement ici même à Radio de la Paix. Nous sommes heureux de vous recevoir pour parler de ce sujet important qu'est l'effondrement donc des maisons dans le district d'Abidjan. Comment vous expliquez ces phénomènes? Pourquoi les maisons, les immeubles s'effondrent à Abidjan?
Alors, il y aurait plusieurs facteurs ou paramètres qu'il va falloir mettre sur la table pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Je dirais la première chose, c'est un constat amer, c'est celui de donner des statistiques. Près de 80% des constructions qui se réalisent actuellement dans l'espace du Grand Abidjan, donc du district du Grand Abidjan, se font sans l'apport des professionnels ou se font sans respect des règles de construction, se font sans avoir, je dirais, le document élémentaire qui est le permis de construire. C'est énorme, mais c'est là comme conséquence de voir un peu des constructions qui sont réalisées en très grand nombre, mais qui n'ont pas respecté les règles de construction, les règles élémentaires de construction. Et ça, c'est un triste constat.
Comment vous expliquez, dans une ville comme Abidjan, dans une capitale aussi importante qu'à Abidjan, qu'on puisse construire 80% des logements ou des maisons sans autorisation ou sans la présence d'un architecte? Comment cela peut s'expliquer?
Bon, c'est pas toujours sans la présence des architectes. Et autres. Il y a également, je dirais, le format de la régularité administrative. Lorsqu'on parle dans les statistiques de 80%, ce sont des personnes également qui ont construit sur des terrains qui sont soit litigieux, soit qui n'ont pas tous les actes administratifs correspondants. Par exemple, si c'est un lotissement irrégulier, on le comptabilise dans les 80%. Mais pour ceux qui construisent, proprement dire, sur des terrains qui leur appartiennent et autres, sans avoir les autorisations administratives élémentaires qui est le permis de construire, c'est peut-être à eux que d'abord il va falloir poser la question. Qu'est-ce qui les pousse à adopter cette position, de vouloir réaliser leur construction, alors que les textes sont très clairs. La construction de tout bâtiment obéit au préalable à l'obtention d'un permis de construire. Lequel permis de construire est élaboré selon des règles édictées par le code de l'urbanisme et également par tous les autres textes réglementaires. On fait appel à un architecte parce que c'est lui qui est la personne qui est habilitée à présenter le dossier de permis de construire. Lequel dossier de permis de construire est établi sur le programme qui a été édicté par le maître d'ouvrage, comme on l'appelle dans notre langage, qui est le propriétaire, mais également dans le respect des règles et des servitudes d'urbanisme. L'architecte donc fait votre projet, il remplit donc un certain nombre d'obligations administratives. Ce dossier est instruit par une commission qui donne son accord ou qui vous demande d'apporter des correctifs sur votre dossier s'il y a des éléments qui ne sont pas conformes à la législation en vigueur. Lorsque cet acte est franchi, maintenant vous pouvez passer à l'étape suivante qui est dite la réalisation. Alors tout dépend de la nature du projet.
Avant qu'on arrive à la réalisation, Monsieur le Président, le permis de construire. Et c'est quoi le permis de construire? Son rôle, son importance, et quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte dans un permis de conduire?
Le permis de construire, c'est simple. C'est un acte administratif. C'est le document que vous remet l'administration pour vous dire tout simplement le projet que vous voulez réaliser sur le terrain qui vous appartient est conforme aux règles d'urbanisme qui ont été édictées au préalable. Ces règles d'urbanisme obéissent également à une procédure. Vous avez, je dirais, au départ un terrain vide. L'État ou l'administration ou la commune décide d'en faire une opération, soit d'habitation, soit une zone industrielle ou une zone toute autre activité qu'elle aura définie. Parce que le projet d'urbanisme obéit à tout un processus également. Lorsque cela est établi, il y aura également des servitudes qui vont être attachées à la construction sur ces différents terrains. On peut vous dire, sur un terrain, vous êtes habilité à faire que de l'habitation. Donc vous ne viendrez pas construire une usine dans cette zone. Ou bien sur cette zone, sur les voies principales, on va vous demander de faire soit des activités commerciales, plus de l'habitation ou des bureaux. Donc tout ça va figurer dans des documents d'urbanisme. Et à ces documents d'urbanisme, il y a également des règles qui vont être attachées. Au niveau de l'occupation du sol, du taux d'occupation du sol, du recul par rapport aux limites séparatives, recul par rapport à la rue, les places de parking, et ainsi de suite. Tout ça obéit à des règles d'urbanisme. L'architecte prend possession de ces différentes informations dans un certificat d'urbanisme, parce que l'administration va lui délivrer un document où toutes ces différentes servitudes vont être marquées. Le nombre de places de parking en fonction de votre projet qui est indiqué, le recul, la hauteur du bâtiment, et ainsi de suite. Ces informations que l'architecte va traduire maintenant au niveau, je dirais, volumétrique, afin de vous donner l'image de votre bâtiment ou de votre hangar ou de vos bureaux à réaliser.
Qui délivre ce document, le permis de construire? Les entités décentralisées, l'administration publique ou bien c'est l'architecte?
Non, l'architecte instruit le dossier. Il est en relation avec son client qui a fait son programme et ensemble, ils vont élaborer un dossier. Les critères que le client va lui donner, c'est les critères bien entendu de son programme, tout ce qu'il veut exactement, mais également des critères budgétaires. Il faut qu'il respecte dans sa composition l'enveloppe, comme on dit, que le client a l'intention de mettre pour la réalisation de son projet. C'est l'administration qui instruit le dossier du permis de construire. L'architecte a un guichet, ici à Abidjan, sur le guichet unique du permis de construire, le GUPC, mais également qui va se décentraliser dans les principales villes de l'intérieur. Sinon, il y a à l'intérieur, en Côte d'Ivoire, des directions régionales du ministère de la Construction qui sont habilitées à instruire ces différents dossiers. Mais toujours, ce dossier est porté par un architecte. Parce que la loi confère uniquement aux architectes.
Ah, pas aux propriétaires du terrain.
Non, le propriétaire du terrain est obligé de s'adresser à un architecte. C'est cet architecte qui est l'interface avec l'administration pour présenter le dossier de permis de construire. Ce dossier est constitué de plusieurs pièces. D'abord, du titre de propriété du terrain, du propriétaire, disons son identité, du certificat d'urbanisme, du visa qui est porté par les différents concessionnaires des services publics, eau, électricité, assainissement et autres, et puis d'autres également documents. En fonction de la nature du projet, peut être sollicité également d'autres documents. Vous voulez faire un hôtel, c'est un caractère touristique, il y a une autorisation qui est sollicitée au préalable du ministère du Tourisme, à titre d'exemple. Si c'est une station-service, la direction des hydrocarbures va vous fournir également des autorisations préalables que vous devez joindre au dossier. Et tout autre document nécessaire, si c'est un établissement qui reçoit du public, il y a également une notice de sécurité qui est faite avec l'Office national de la protection civile qui va regarder pour être certain que l'établissement ou le projet que vous êtes en train de faire pourra bel et bien recevoir du public dans le cadre de son exploitation. Donc tous ces différents documents sont joints avec les documents de l'architecte, avec un descriptif sommaire de son projet, une estimation sommaire, et on le soumet au guichet unique, qui est une commission à l'intérieur et qui est composée, elle est plurielle, de techniciens de tous les niveaux, d'architectes, d'ingénieurs, d'administratifs, d'urbanistes et autres, et qui vont vérifier si tous les documents que vous avez présentés sont conformes à la réglementation en vigueur. Et à l'issue de tout ce processus de contrôle et de vérification, si la commission juge que le projet respecte tous les termes, vous avez le permis de construire qui vous sera délivré. Soit un permis de construire dit ministériel, ça dépend de la nature du projet et de son importance, soit un permis municipal délivré par le maire de la commune, mais tous représentés au sein de cette commission.
Alors, est-ce que, avons-nous, Monsieur le Président, un délai pour obtenir ce document? Combien de temps ça peut prendre à peu près?
Alors, ce sont des délais administratifs, je dirais, qui sont affichés au niveau du guichet unique, en fonction de la nature du projet et autres. Quand le dossier est complet et bien traité par un cabinet d'architectes qui a respecté toutes les règles, toute la réglementation et qui a fourni tous les documents nécessaires à l'instruction, ça va très vite pour la présentation à la commission.
Très vite, c'est combien de temps à peu près?
Je dirais, pour les exemples que j'ai, c'est au maximum une semaine, entre le moment où vous le déposez et le moment où le dossier peut passer devant la commission. S'il est complet, s'il n'y a pas de réserve émise, l'avis favorable est établi. Maintenant, on va passer à la rédaction de l'arrêté qui suit une procédure interne administrative, mais ça, c'est le guichet unique, c'est les ministères, c'est les mairies. Quelquefois, vous avez des documents très vite, quelquefois, ça traîne un peu. Mais, comme on dit, ça fait partie, en guillemets, des lenteurs administratives. Mais l'instruction va assez rapidement.
Le document a un coût?
Il y a plusieurs coûts en fonction de la nature. Quand vous réalisez un établissement qui reçoit du public, monde, un centre commercial et autres, vous arrivez jusqu'à 1 million pour les coûts d'instruction. Mais pour d'autres dossiers, ce sont des sommes, comme on dit, quasi dérisoires, 50 000 francs au moins en nature. Donc tout dépend de la nature du projet. Mais c'est compris dans un process qui est maîtrisé et qui est public. Les coûts sont affichés, sont publics.
Lorsqu'on a ce permis de construire, avec tous les éléments que vous venez d'évoquer, normalement, on devrait s'attendre à ce que les bâtiments qui sortent sur la base donc, du permis de construire qui a été délivré soient des bâtiments solides qui résistent aux intempéries. Alors pourquoi des bâtiments qui ont des permis de construire en bonne et due forme s'écroulent, s'effondrent?
Alors, je peux dire que ça, c'est la partie, je dirais, études techniques, architecturales, et la partie administrative. Nous sommes sortis maintenant de cette étape, on passe à l'étape suivante, qui est la réalisation. Et c'est là que commencent les premiers, je dirais, difficultés, ou les premiers problèmes. Premièrement, qui est le maître d'ouvrage? Le plus souvent, lorsque vous intervenez pour des institutions et autres, qui ont déjà donc le budget et qui ont tout, elles vont vous dire... Je vais faire un appel d'offres. Alors, on va établir en tant qu'architecte ce qu'on appelle les dossiers de consultation des entreprises, les DCE. Et dans ce dossier, il y a plusieurs documents, des documents graphiques, mais également des documents écrits. Dans les documents écrits, vous avez encore un certain nombre d'informations qui sont des informations d'ordre général. Donc, quelle est la procédure de consultation, comment est-ce qu'on va faire le dépouillement, comment on va attribuer le marché et autres. Les différentes réglementations qui vont être appliquées dans le cadre de ce projet. Et puis ensuite, vous avez des documents qui sont d'ordre technique et qui vont décrire exactement la nature des travaux qui doivent être exécutés, les normes qui doivent être suivies, respectées par les différentes entreprises, les limites de prestation entre différents corps d'État et autres. L'architecte établit ces différents documents et ça va permettre de choisir par la suite les entreprises. L'entreprise, si elle est tout corps d'État, ou les entreprises, quand il y en a plusieurs, qui vont réaliser. Dans ces cas de figure, il y a rarement des problèmes. Très rarement des problèmes. Tout simplement parce que tout a été défini de manière très claire dès le départ. Chacun sait ce qu'il a à faire. Les rôles de chacun ont été définis. L'architecte a une mission qui est prévue contractuellement. Il sait ce qu'il a à faire. Les entreprises ont également leur mission. S'il y a plusieurs entreprises, elles savent chacune jusqu'à où elles doivent porter leur prestation et où va commencer la prestation suivante. Par exemple, celui qui va faire le gros œuvre ou la maçonnerie, il sait qu'ils doivent monter tous les murs et autres, et il s'arrête à un moment pour permettre peut-être soit à l'électricien ou au plombier d'intervenir. Ensuite, il vient à nouveau intervenir pour faire un certain nombre de finitions. Il remet ses ouvrages de gros œuvre dans un certain état qui a été défini contractuellement et accepté par l'architecte, par le bureau de contrôle, le bureau de normalisation des risques et autres. Tout est défini. Et tout le monde respecte les règles, tout le monde respecte les procédures, tout le monde respecte les normes. Il se pose très rarement des problèmes, sauf ce qu'on appelle les vices cachés.
C'est quoi les vices cachés?
Alors, ce sont des choses qui auraient pu nous échapper dans tout le processus de mise en œuvre. Voilà, on a mis une toiture, on avait fait un débord de toiture d'une certaine longueur, et puis il se trouve que la direction des vents fait en sorte que lorsqu'il y a des fortes pluies, l'eau arrive à passer à certains endroits. Ce n'était pas prévisible parce que la norme avait demandé, par exemple, qu'il y ait un débord minimum de 60 cm et vous avez fait des 60 cm minimum. mais la direction des vents, la force des vents, l'heure aujourd'hui avec le dérèglement climatique, peut entraîner des infiltrations qui n'avaient pas été prévues. Alors, on va déterminer, avec avis d'experts, pour voir si, effectivement, la norme a bien été respectée, mais malgré le respect de ces normes et hautes considérations, il y a eu, malheureusement, une infiltration d'eau ou un passage d'eau à un endroit. Alors, ça, on appellera le vice caché, mais il y a une couverture, maintenant, qui est faite. Parce que lorsque c'est fait par des professionnels, tout le monde se couvre avec une assurance. Vous avez votre véhicule, vous devez conduire en bon uniforme, mais malheureusement, vous n'avez pas prévu qu'un arbre pouvait tomber avec de fort vent sur votre véhicule. Mais lorsque cela arrive et que vous avez une assurance tout risque, vous pouvez aller voir votre assureur et demander à ce que votre véhicule soit remis en état.
Concrètement, président Joseph Amor, revenons sur le cas de l'immeuble qui s'est écroulé ici même à La Palmeraie le 4 juin dernier. Vous avez visité le site, je sais que vous y êtes allé, vous avez vu déjà vos premières observations. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Alors, les premières informations qu'on a eues, disons, qu'on a recherchées, c'était de savoir si sur le projet qui était en cours de réalisation avait un architecte. Parce que s'il y avait un permis de construire, il devait avoir un architecte. Et c'était confirmé. Nous nous sommes approchés de l'architecte pour voir la nature du dossier qu'il avait présenté. C'était un dossier qui était conforme à la réglementation et qui comportait toutes les pièces édictées et qui a permis à l'administration de délivrer un permis de construire. Et ça, nous sommes maintenant dans la phase dite réalisation. Le propriétaire a entamé les travaux sans informer l'architecte. Parce que l'architecte doit être présent à l'ouverture du chantier. Il doit connaître tous les intervenants. Il doit s'assurer qu'ils ont tous les documents nécessaires au projet, qu'il doit respecter celui qu'il a présenté à la commission du permis de construire. Il n'était pas là. Il ne savait pas que le projet avait déjà démarré. Le maître d'ouvrage, avec les équipes qui l'accompagnaient, avaient donc les documents avec eux et ils ont entrepris les travaux de fondation par les fouilles pour implanter le sous-sol. Donc, des travaux d'excavation. Et ces travaux d'excavation doivent obéir à des règles techniques. Il y a le DTU, le document technique unifié, qui donne des indications lorsqu'il s'agit de faire des fouilles et surtout des fouilles à proximité de bâtiments existants. Il y a déjà des bâtiments, il y a des semelles de fondation qui existent, les bâtiments sont mitoyés. La règle vous donne la procédure à suivre. On doit consolider, on doit faire le blindage des talus ou des parois périphériques avant d'entamer d'autres travaux. Donc il y a une séquence de travaux à faire. On n'a pas suivi en apparence la procédure et on a entamé des travaux qui peuvent être corrects, mais vous pouvez faire du bon travail avec de bons matériaux, mais si vous ne suivez pas les procédures, vous risquez d'avoir des désordres, comme on l'appelle. Et c'est apparemment, puisque les enquêtes vont préciser exactement ce qui a bien pu se passer, mais pour nous qui avons fait une petite observation, on a vu que les fondations des bâtiments périphériques avaient été déchaussées, c'est-à-dire mises à nu apparentes. On a creusé même en dessous de ces semelles de fondation, sans avoir fait du blindage, sans avoir pris des précautions élémentaires en la matière. C'est dommage. C'est la catastrophe qui était en marche.
Vendredi, également à Djamé, on a vu cette image sur les réseaux sociaux. Cet immeuble qui s'est écroulé, on attendait même, avant que l'immeuble ne tombe, les bruits d'affaissement du bâtiment.
C'est la même chose. C'est un autre scénario lié au phénomène des effondrements, affaissements. L'enquête encore va dire ce qui a bien pu se produire. Mais en toute évidence, il y a peut-être eu un problème de sol. Parce que assez souvent, les risques d'effondrement ou d'affaissement de bâtiments sont liés à la nature du sol. Tous les sols ne peuvent pas supporter tout type de bâtiment. Si le sol n'est pas dans la partie superficielle, apte à recevoir, eh bien, on va rechercher le bon sol qui se trouve à des profondeurs beaucoup plus importantes. Ou sinon, il y a d'autres dispositifs constructifs qui sont connus des architectes, des ingénieurs pouvant travailler. On arrive à travailler, à implanter des bâtiments sur l'eau. Mais il y a des dispositions à prendre. Vous pouvez travailler sur du sable, vous pouvez vous installer sur de la roche. Mais à chaque situation correspond un processus technique de mise en œuvre. Ça n'a pas été certainement suivi. On est arrivé à des bâtiments qui avaient 4 niveaux, si je ne me trompe. Le poids de ce bâtiment sur un sol peut-être qui n'est pas apte et haute a fait que les éléments structurels n'ont pas tenu. Est-ce que peut-être le sol était bon, mais c'était les matériaux qui ont été mis en œuvre non conformes, soit de la qualité, soit dans les dosages du béton. Il y a beaucoup d'éléments qui vont être analysés par les experts. Ils sauront, eux, déterminer quelle était la cause qui a bien pu accélérer et arriver à avoir ce bâtiment qui va s'effondrer.
Alors, ce qu'on constate, monsieur le président, à Mont-Joseph, très souvent, les populations, les observateurs se plaignent de la qualité des matériaux de construction qu'on a. Vous qui êtes donc des spécialistes, vous êtes le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, est-ce que vous interpellez le gouvernement, le ministère de la Construction ou de l'Industrie, sur la qualité du matériel qui est vendu sur nos marchés pour des constructions? On ne sait pas qui vend le bon matériel.
Si, on sait qui vend le bon matériel, mais on ne va pas les acheter. On les achète aux endroits où on vend le faux matériel, on vend le mauvais matériel. Ça, c'est un constat.
Comment on fait la différence entre le bon et le mauvais?
Mais je vais vous donner une réponse très simple. Le spécialiste distingue tout de suite le bon du mauvais, automatiquement. C'est pourquoi sur les chantiers où vous avez les bureaux de contrôle, vous avez le bureau de normalisation des risques, vous avez les ingénieurs conseils, vous avez les architectes, n'entreront jamais de mauvais matériaux. Parce que les aciers qui vont venir sur votre chantier, il y a une traçabilité. Le bon acier a un label, il y a une signature qui est attachée. Bien entendu, la fraude peut imiter. Mais ça, vous êtes dans une situation de fraude et elle peut être sanctionnée par les tribunaux. Donc, on n'amène pas sur un bon chantier du mauvais matériel. C'est rejeté à la porte d'entrée. Même le ciment qui est utilisé pour certains ouvrages ont des caractéristiques. Sur le marché, il y a plusieurs types de ciment. Le CPA, le CPJ et autres, il y en a plein. Mais en fonction de la nature des travaux, les prescriptions vont vous dire, pour ce type de travail, voici le type de ciment, voici le dosage, voici la quantité de sable, ciment, gravier, eau qu'il faut faire, qu'il faut, comme on dit, malaxer, pour avoir du béton de qualité pour tel type d'ouvrage. Parce que vous avez du béton qui peut être à 350 kg par mètre cube ou à 400, en fonction de la nature. Les spécialistes le connaissent, ils font la distinction et ils connaissent les proportions de chaque matériau qu'il va falloir mettre. Lorsqu'il fait très chaud, ou qu'on entend très humide actuellement et autres, on ne met pas la même quantité d'eau dans le béton. Le spécialiste le connaît. Donc si vous avez des experts, des spécialistes qui vous accompagnent dans votre projet, vous soyez assuré que toutes les dispositions sont prises. Mais par contre, si vous décidez de le faire de vous-même, ou si vous le faites confiance à quelqu'un qui pense avoir la qualité, la capacité de pouvoir faire ce travail à la place de spécialiste, vous courez le risque, un qui vous achète du mauvais matériel parce qu'il coûte moins cher, et moins cher coûte toujours cher à la fin. Il peut avoir même du bon matériel, mais une mauvaise mise en œuvre parce que les aciers n'ont pas été attachés selon les règles techniques ou les efforts, les sollicitations dans lesquelles elles sont mises en œuvre par la suite. Il y a beaucoup de paramètres. Et c'est tout ça qui fait que vous avez à la fin un ouvrage qui est bon ou un ouvrage qui est mauvais. Et très souvent, on essaie d'expliquer au client qu'on n'achète pas un carreau parce qu'il est esthétiquement beau. On l'achète le carreau, à titre d'exemple dans le cas des revêtements, parce qu'il va remplir un certain nombre de fonctions. Les carrelages, par exemple, obéissent à une norme, UPEC, usure, poissonnement, eau, chimie. Donc ça correspond à des caractéristiques. Vous mettez un carrelage au sol n'est pas le même que le type de carrelage que vous allez mettre sur un mur. Et même sur le mur intérieur ou le mur extérieur n'ont pas les mêmes caractéristiques. Mais en apparence, ça peut se ressembler les uns les autres. Mais l'architecte ne se trompera pas. Parce que s'il se trompe, sa responsabilité est engagée. Il vous met un carrelage dans un hall public qui n'est pas adapté. Ce carrelage va s'user à une vitesse grand V, mais le propriétaire est en droit de dire à cet architecte qu'est-ce qui se passe. Il y a à peine un an qu'on a posé ce carrelage et il est déjà usé. C'est parce qu'il n'a pas fait la vérification préalable sur la qualité de ce revêtement qui a été mis au sol. Et sa responsabilité est engagée, solidairement avec son assurance, bien entendu.
Nous sommes sur Radio de la l'espace La Grande Interview. Et dans le cadre donc de La Grande Interview, nous recevons donc le président Joseph Hamon, qui est donc le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlons des solutions durables pour que les maisons soient construites selon les normes indiquées. Monsieur le Président, autre préoccupation, les maisons qui se croulent en général sont des immeubles. Au niveau des immeubles, est-ce qu'il ne faut pas des règles spécifiques concernant la construction des maisons R+1, R+2, R+3, puisque c'est là-bas qu'il y a très souvent beaucoup de problèmes et beaucoup de morts au sein des populations quand ces maisons s'affaissent et s'écroulent?
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Il va falloir revenir autour d'une table et de voir avec l'administration, puisque c'est elle qui est après indexée, quelquefois à tort ou à raison, sur cette situation. Il y a des problèmes également pour les maisons basses, mais le plus souvent, ce sont des fissures que vous allez constater dans votre maison. Ce sont des portes qui grincent, qui s'ouvrent mal, qui se ferment mal. Mais comme c'est, comme on dit, à minima, on ne s'en rend pas compte, où on est tout le temps en train de venir remettre une nouvelle couche de peinture sur, ou bien calfeutrer ces différentes fissures. Mais si c'était un bâtiment de plusieurs niveaux, ces fissures allaient être beaucoup plus pathétiques. Donc ça, c'est à tous les niveaux, hein, on rencontre ces malfaçons ou ces désordres dans les bâtiments. Sur les procédures liées à des bâtiments de grande hauteur, l'administration avait déjà pris un certain nombre de mesures. On demandait, ou on demande encore jusqu'à présent, à ce que dans les dossiers de permis de construire, lorsqu'il s'agit de bâtiments au-delà de deux niveaux, soit joint un dossier technique sur la partie stabilité de l'ouvrage. Mais je me rends compte, personnellement, c'est une observation que je fais et que de nombreux architectes font actuellement, c'est que ce document est détourné par un certain nombre de personnes parce qu'elles considèrent que le fait qu'elles aient déjà une pré-étude sur la stabilité du bâtiment leur permet déjà de pouvoir utiliser ces documents pour commencer à construire. Or, ce n'est pas le cas. L'un est administratif. Et l'administration vous demande à la fin d'amener une convention ou un contrat, une convention liant le maître d'ouvrage à un bureau, soit de contrôle, soit un bureau d'ingénieur conseil. Ce document est fourni, mais est-ce que par la suite, le maître d'ouvrage s'en tient à cet engagement qu'il a pris ? L'administration n'est plus là. Il y a une relecture de ce chapitre qu'il va falloir faire avec l'administration. Il faut changer pour moi. Ça ne marche pas. Parce que lorsque je regarde le dossier du permis de construire, étant un acte administratif et non pas un acte technique, le propriétaire qui a son dossier, parce que souvent il s'agit de gros investissements lorsqu'il s'agit de bâtiments de plusieurs niveaux, peut décider de faire appel à une entreprise pour construire. Les plans d'exécution de l'ouvrage sont de la responsabilité de l'entreprise. Il est établi par l'architecte, il est établi par l'ingénieur conseil, mais l'entreprise se doit de faire valider ses plans d'exécution avec un bureau de contrôle. Or, à ce niveau, peut apparaître une faiblesse de la réglementation. Il faut apporter un correctif. Et il existe pour moi déjà un document que l'administration a déjà pris depuis des années, qui est le certificat de conformité. Si, dès le départ, on comprend que le certificat de conformité constitue le document final avant l'exploitation du bâtiment, avant son ouverture, avant que les personnes puissent entrer et habiter dans le logement, toute la chaîne sera obligée d'être mise en place dès le début jusqu'à la fin. Parce que si, au cours du processus, quelqu'un est sorti, le processus ne pourra plus être complet. Cela va constituer un engagement ferme du propriétaire de continuer de travailler avec les personnes qui ont été identifiées. Il y a des clauses de rupture, de contrat et autres qui seront appliquées s'il y a une défaillance de l'une ou l'autre des parties. Mais il faut changer ou il faut relire cette documentation. Et je pense qu'avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, le moment est tout indiqué pour qu'on arrive à s'asseoir autour d'une table entre techniciens, entre ingénieurs, architectes, et puis de remettre les choses en place. On ne doit plus avoir des constructions qui s'effondrent. Ça, c'est l'objectif qui doit être pris par toutes les parties. Que ce soit de l'administration, que des techniciens que nous sommes, nous devons avoir un langage commun. On doit ramener le risque d'effondrement à zéro.
Les populations disent avoir recours à un architecte, ça coûte cher, au point où les populations sont obligées d'utiliser parfois des solutions à courte échelle et ça crée malheureusement des situations malheureuses.
Les prestations des architectes, c'est une mission. Tout comme quand vous allez voir un médecin, il vous fait une consultation. La consultation dure 15-20 minutes avec un médecin. Mm-hmm. Et vous payez sans hésiter. Et quelquefois, c'est une feuille de papier pliée en deux où il y a une prescription médicale, une ordonnance, comme on le dit, qui est faite. L'architecte, il vous livre tout un dossier qui va vous engager, qui va l'engager lui pour toute la vie du bâtiment. Parce qu'à chaque projet est attaché ce qu'on appelle une garantie décennale. C'est-à-dire que pendant les 10 ans qui suivent le projet, pour toute faute commise sur la nature de sa mission, il est responsable. Donc c'est tout ça qu'il fait. Au-delà de ça, au-delà de la conception volumétrique, spatiale et technique qu'il aura apportée à votre projet, il vous apporte également une garantie de suivi de travaux, de conformité de ses ouvrages. Il vous apporte également une garantie décennale qui est solidaire avec celle de l'entreprise, qui prend aussi une autre assurance décennale, le bureau de contrôle, normalisation des risques, qui lui certifie aux compagnies d'assurance que l'ouvrage a bel et bien été exécuté en conformité avec la réglementation et aux normes. Et c'est toutes ces prestations qui sont faites. Je pose souvent la question, est-ce que ceux qui disent que l'architecte coûte cher ont effectivement rencontré un architecte ou fait un projet? Parce que tous ceux qui ont fait un projet une fois avec un architecte n'hésitent jamais à faire tous leurs projets avec des architectes. Ce sont ceux qui n'ont jamais construit, qui pensent que payer 5 ou 10% du montant de l'ouvrage, des investissements, constitue une grosse perte pour eux. Mais au premier dégât, ils ont déjà dépassé largement ce... Donc, je ne pense pas que l'architecte coûte cher. Tout dépend de la nature du projet, tout dépend de sa complexité, tout dépend de la mission qui est confiée à l'architecte. Mais aucun projet d'architecture ne dépasse les 15%, au pire des cas, d'honoraires sur le volume des investissements. Mais 15% d'assurance ne représente rien pour une durée de vie infinie de ce bâtiment.
Monsieur le Président Joseph Anoma, nous arrivons au terme de cet entretien, mais avant de nous séparer, nous allons vous permettre de dire un mot à l'endroit donc des populations, mais surtout des opérateurs économiques aujourd'hui qui investissent énormément dans le logement. Malheureusement, ces bâtiments ne sont pas toujours aux normes et ça crée la désolation au sein de la population.
Cette série d'effondrements que nous vivons actuellement et celles qui se sont passées les années précédentes qui ont entraîné malheureusement quelquefois des pertes en vie humaine, mais surtout d'importants dégâts matériels, doivent nous interpeller tous. Nous pensons qu'aujourd'hui, au stade de développement de nos pays, nous avons suffisamment de personnes qualifiées, formées, instruites pour accompagner tout projet de construction ici en Côte d'Ivoire. Ces personnes existent. On est rassemblés au niveau des architectes au sein d'un ordre, mais également les ingénieurs sont rassemblés au sein d'une chambre des ingénieurs conseils et experts en génie civil. Ce sont autant de personnes qualifiées qui sont ouvertes. Et le conseil est gratuit dans nos professions. Vous pouvez avoir toute information, soit auprès de l'Ordre des architectes, qui est un secrétariat permanent. Vous pouvez avoir accès à tout architecte. La liste est publiée régulièrement dans les différents médias avec les contacts et puis avoir la possibilité d'aller vers eux, parler avec les architectes. Ils vous donneront toutes les informations dont vous avez besoin. Et si vous avez votre projet, ils vous accompagneront en toute sécurité, en toute garantie, jusqu'à terme. Des architectes sont disponibles. Ceux qui interviennent dans le secteur du bâtiment sont là. Vous n'hésitez pas, venez et mettons fin à ces problèmes d'effondrement d'immeubles. Mettons fin au désordre que nous pouvons avoir dans nos maisons. Nous pouvons y arriver tout simplement avec notre bonne volonté et notre désir de pouvoir participer tous ensemble à la construction de notre pays.
Merci beaucoup à Monsieur Joseph Amon, le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlons des événements malheureux récents qui se sont produits à Abidjan. Il s'agisse donc des écroulements de bâtiments et des affaissements de bâtiments dans le district d'Abidjan. Et l'Ordre est sorti donc pour interpeller la population, pour interpeller les opérateurs économiques sur la nécessité de respecter les règles de la construction, bien entendu en se faisant accompagner par les spécialistes dans le domaine. Merci de nous avoir suivis. Technique, vous avez Camara Amina Yefin, à ce micro Ben Diakité. Nous vous donnons rendez-vous dans les jours prochains pour parler de d'autres sujets, de d'autres défis concernant le développement en Côte d'Ivoire. Merci et très bon week-end à vous.
Vous venez de suivre La Grande Interview.